BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez comme tous les soirs en direct dans Good evening business. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume. Bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, il y a eu ce temps fort quand même à midi. C'était dans la cour de Bercy, le discours d'adieu de Bruno Le Maire. Il y a beaucoup de monde apparemment.
Il y en avait beaucoup, je peux vous dire, j'y étais. Ouais, y reviendra tout à l'heure. Il faisait très froid, mais en même temps, c'était très chaleureux.
Alors, il y a beaucoup de monde, beaucoup de messages bien sentis aussi, comme on dit. Mais Thomas Asportas aussi va nous raconter ça, bien sûr, dans un instant. Sinon, la bonne nouvelle du jour, c'est que la facture d'électricité pour les Français va baisser d'ici quelques mois. On en parlera avec votre invité.
Absolument. Et Emmanuel Wargon, l'ancienne ministre, qui est présidente de l'ACRE, la Commission de régulation de l'énergie, elle l'a annoncé hier soir. Redit ce matin, moins 10%, mais en même temps, moins 10%, au moins moins 10%. J'essaierai de voir si c'est plutôt vers les 15%, les moins 15%. Pour combien de temps est-ce que ça va durer? Mais l'énergie reste encore très chère. Et puis une question quand même, est-ce qu'il n'y aura pas un trop-plein d'électricité? La question se pose déjà.
On débriefera tout ça à 18h30, bien sûr, avec tous les experts. On parlera aussi de la Banque Centrale Européenne qui a une nouvelle fois baissé ses taux d'intérêt tout à l'heure. Alors, ça y est, on a gagné le combat contre l'inflation. Et puis on parlera des retraites. On sent que Michel Barnier est prêt à faire des ouvertures, alors qu'au même moment, le ministre italien de l'économie dit ben nous, on irait bien à 70 ans si ça se trouve.
Ça va.
Ça va alimenter le débat. Voilà, entre autres, tout ce qu'on raconte jusqu'à 20h, évidemment, sur BFM Business. C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc, Bruno Le Maire, bonsoir, bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Bruno Le Maire qui quittera Bercy a priori la semaine prochaine après y avoir passé 7 ans, c'est un record au passage. Et donc il a fait un discours d'adieu ce midi dans la cour du ministère et il a fait passer quelques messages à l'occasion quand même.
Oui, et il a commencé par remercier Emmanuel Macron, ce qui se fait plus trop en Macronie depuis l'annonce de la dissolution. Vous m'avez tendu la main en mai 2017, je ne l'oublie pas. C'est donc un Bruno Le Maire loyal au président qui s'est présenté ce matin devant la foule. Alors pour dire quoi? Pour dire que son bilan est bon. La croissance est plus forte en France que chez nos grands voisins européens. Le chômage baisse, les usines rouvrent, les investisseurs reviennent. Et il implore donc son successeur de ne pas revenir en arrière sur sa politique économique, ne pas revenir en arrière sur le rétablissement des comptes publics, il faut repasser sous les 3% en 2027, ne pas revenir en arrière sur les impôts, il ne faut pas réaugmenter les impôts, ne pas revenir en arrière sur le travail, le plein emploi est à portée de main, et enfin ne pas revenir en arrière sur la réindustrialisation après 40 ans de délocalisation. Bruno Le Maire adresse donc ce conseil à son successeur, plutôt que de défaire, regardons ce que nous pouvons faire mieux, et liste 3 points d'amélioration à son successeur. 1. Les salaires. Il faut redonner un espoir salarial aux Français, a-t-il dit ce matin. Et il appelle à revoir en profondeur les allègements de charges et le financement de la protection sociale. 2. Le climat. On en a beaucoup fait, mais on n'en fera jamais assez pour le climat. Ouais. Et enfin, 3. Le financement de l'économie, qui passera par l'union des marchés de capitaux et par la simplification. Nous ne pouvons pas lambiner quand les autres galopent, a-t-il dit aujourd'hui.
Voilà les bons conseils de Bruno Le Maire, qui devrait donc passer la main à son successeur, a priori, la semaine prochaine.
C'est ce qu'a dit Michel Barnier.
Michel Barnier, évidemment. Bruno Le Maire a-t-il démérité pendant 7 ans à Bercy, ça fait partie des questions qu'on posera ce soir à nos experts. Évidemment, jusqu'à 20h. Merci beaucoup Thomas. Pendant ce temps, il n'y a pas eu de surprise, je vous le disais, à Francfort, comme on s'y attendait, la Banque Centrale Européenne a encore baissé ses taux d'intérêt. Ils sont à 3,5% désormais. Christine Lagarde, elle aussi d'ailleurs, a fait passer un petit message aux pays de la zone euro. Il est vraiment, vraiment temps de s'occuper des déficits et de la dette. Écoutez ce qu'elle a dit.
Les politiques budgétaires et structurelles doivent rendre l'économie plus productive et plus compétitive pour aider à soutenir la croissance et réduire la pression sur les prix. Les gouvernements doivent maintenant s'engager résolument dans la voie de leur plan en matière de politique budgétaire et structurelle.
Voilà, bon entendeur, comme on dit, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, tout à l'heure à Francfort. Est-ce qu'on peut dire que la BCE a gagné quasiment son combat contre l'inflation? Ça aussi, ça fait partie des questions qu'on posera ce soir à nos experts. 18h02, dans l'actualité des entreprises maintenant. On vous racontait hier que la banque italienne UniCredit avait décidé d'entrer au capital de l'allemande Commerzbank à hauteur de 9%. Le patron d'UniCredit a parlé aujourd'hui et il a clairement confirmé qu'une reprise à 100%, ouais, c'était quelque chose d'envisageable. Écoutez.
Nous entamons des discussions sur la manière dont Commerzbank peut créer de la valeur ou créer plus de valeur. Si cela se concrétise, nous serons très satisfaits. Le sujet d'une fusion-acquisition ou d'une alliance plus poussée est à l'ordre du jour. En tant qu'investisseurs, nous pouvons désormais engager une réflexion constructive sur la possibilité de créer ainsi plus de valeur.
Voilà le message d'André Orcel, donc le patron d'UniCredit cet après-midi, sauf qu'on en parlera tout à l'heure à 19h, c'est entré déjà 9% du capital des Italiens au capital de la Commerzbank, ça fait beaucoup causer côté allemand. Et vous avez une grande mobilisation qui est en train de se mettre en place. Direction de l'entreprise syndicat, plus une partie de la classe politique pour mettre la holà sur les ambitions d'UniCredit. Mais on racontera ça donc dans le journal de 19h. Et puis alors, ça y est, c'est fait, on a assisté ce midi à la première sortie privée dans l'espace orchestrée par SpaceX. Vous avez donc deux civils, dont un milliardaire américain, qui ont passé un quart d'heure dans l'espace. C'est évidemment du jamais vu. Jean-Baptiste Huette.
C'est un sans faute pour SpaceX. Le milliardaire américain Jared Isaacman a effectué la première sortie d'un civil dans l'espace à environ 600 km d'altitude, suivie quelques minutes plus tard par une ingénieure de SpaceX. Cette sortie était aussi l'occasion de tester grandeur nature les nouvelles combinaisons développées par l'entreprise d'Elon Musk. Les deux astronautes ont effectué quelques tests de motricité. Ces combinaisons équiperont peut-être les futurs voyageurs qui iront sur la Lune ou pourquoi pas sur Mars. Spécificité de la mission, pour sortir, il a fallu dépressuriser la capsule entière, car elle ne possède pas de sas. Sur les quatre astronautes, deux sont restés harnachés sur leur siège et donc exposés au vide spatial. L'écoutille a ensuite été refermée, la cabine repressurisée. Comme d'habitude avec SpaceX, cette sortie s'est révélée être un vrai show. Les caméras embarquées ont permis de suivre l'événement minute par minute, à bord de la capsule, à l'extérieur, avec une vue imprenable sur la Terre. Le patron de la NASA exulte. Voilà un pas de géant pour l'industrie spatiale commerciale. Et c'est vrai, puisque jusqu'à présent, les touristes de l'espace devaient se contenter de rester sagement derrière leur hublot.
Voilà, belle opération de com' évidemment pour SpaceX et aussi pour cet entrepreneur américain. On dit que sa fortune est évaluée à 1,8 milliard de dollars et que ce petit tour d'un quart d'heure lui a coûté la bagatelle de 50 millions d'euros. Et puis alors, plus proche de nous, écoutez le patron d'IKEA France, parce qu'on a inauguré ce matin le nouveau magasin IKEA à Paris, qui est basé Place d'Italie. Il en est fier et il estime que IKEA doit encore continuer à ouvrir des magasins en France. Écoutez.
Paris est une ville vraiment importante pour IKEA. On a 10 magasins ici, on cherche encore à se développer. On essaye d'être plus accessible, plus abordable, plus développement durable. On veut optimiser notre présence en ligne, notre stratégie omnicanal avec notre réseau de livraison. On poursuit aussi notre stratégie d'expansion physique. Ce mois-ci, nous inaugurons ce magasin à Paris, mais aussi deux ateliers de conception de commandes à Toulouse et à La Rochelle.
Et La Rochelle. Johan Jorel, le patron d'IKEA France, donc aujourd'hui dans ce nouveau magasin IKEA qui a donc ouvert ses portes du côté de la place d'Italie. 18h06. On va sur les marchés. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé la journée à la Bourse de Paris?
Plutôt bien, c'était une séance très intéressante. Alors, pas tant par l'impact de la BCE et de sa décision de baisser son principal taux directeur.
On s'y attendait. Hein.
Voilà, on s'y attendait. Il y a eu beaucoup plus d'irrégularités au cours de l'après-midi du fait de la publication des prix à la production aux États-Unis. Donc c'était très très volatile et d'ailleurs le CAC 40 a réduit nettement son avance dans l'après-midi. On gagne quand même 0,52% en clôture, 7435 points, petite surperformance de la techno avec l'Euronext Tech Leaders qui prend 0,83% à 2349 points. Puis à noter une très nette surperformance de l'Eurostox 50. Ah oui, en tête des progressions, on avait ASML, on avait UniCredit aussi, des hausses de plus de 3%. Donc du coup, l'indice pan-européen s'est mieux tenu que le CAC 40. À noter quand même une belle performance de Safran hein, qui est en tête des progressions à plus 3,16. On est à 202,40 €. Nos spécialistes de l'intelligence électrique, là, qui était très très entouré, encore Schneider Electric plus 2,8% à 226,20 €, et Le Grand plus 2,94 € à 101,60 €. Le Grand qui est très entouré en ce moment, on avait eu une bonne opinion de JP Morgan hier, aujourd'hui c'est la Deutsche Bank qui a dit qu'il était très intéressé par la valeur là en ce moment et ses perspectives. En revanche, en bas de tableau, on a Edenred qui perd 2,6% à 35,88 €. On a une série de mauvaises opinions autour de tout le secteur des titres de paiement. Il y a Pluxee aussi qui a connu une séance difficile hier et qui a terminé en baisse. Et du côté des valeurs sur l'indice large, sur le SBF 120. Des valeurs taux hein, qui ont signé les plus fortes performances. Icade, plus 5,2% à 24,64€. Nexity, plus 4,68€. 11,19€. Du côté des matières premières, attention, l'once d'or fin n'arrête pas de grimper et signe de nouveaux records absolus. 2582$ l'once à l'heure actuelle. Et du côté du CAC 40, donc plus 0,52% en clôture, 7435 points. L'euro 1,1048.
On regarde rapidement, Antoine, ce qui se passe à Wall Street, évidemment, misant sur le marché américain. On a un Dow Jones qui fait moins 0,19%, 40782. Le Nasdaq, de son côté, qui grappille 0,2%, 17432 en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on regarde là?
Deux événements qui expliquent cette surperformance du Nasdaq. Des mouvements d'achat alors assez costauds qui avaient déjà lieu hier sur Nvidia. Nvidia très bien orienté. Hein, le titre est en hausse d'1,7%. Mais vraiment sur la courbe, ça se voit. Il y a eu un creux. On l'a tout de suite racheté. Et même chose pour Apple, bon, qui reste en baisse, mais sur une baisse modérée, moins 0,35%. Mais gros mouvement d'achat sur la techno. Et ça explique cette surperformance du Nasdaq.
Merci beaucoup, Antoine. Antoine Larry-Gaudry, bien sûr, avec nous tous les soirs sur BFM Business. 18h09, à suivre la grande interview. C'est donc Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, qui est l'invitée d'Edwige Chevrillon. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Tiens, il y a une petite panne d'électricité. Non, allez, mauvaise plaisanterie. Bonsoir Emmanuel Wargon.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Président de la commission de régulation de l'énergie, si je veux dire ça, c'est parce que ce matin, ou même hier soir, vous avez annoncé une bonne nouvelle plutôt, on l'attendait, donc une baisse des tarifs réglementés qui sera d'au moins 10%, confirmant ce qu'avait dit Bruno Le Maire, le ministre démissionnaire, on dira un mot tout à l'heure. Emmanuel Wargon, d'au moins 10%, juste parce que vous êtes exprimé sur ce point-là, mais c'est plus proche des 15% ou des 10%?
Vous savez, nous, on est une autorité de régulation et d'un tempérament plutôt prudent. Du coup, l'hypothèse que nous avons prise, c'est au moins 10%. Et forcément, il faut garder un petit peu de marge parce qu'il peut toujours se passer des choses. Ça reste une prévision. Les prix peuvent remonter en toute fin d'année. C'est pas ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les prix de l'électricité se sont stabilisés. Mais on sait jamais, une crise non prévue. Et puis par ailleurs, on a un gouvernement qui va bientôt être nommé et un Parlement et une discussion budgétaire et de loi de finances à venir. Et donc évidemment, on peut pas préjuger des choix budgétaires et fiscaux. Sinon, c'est au moins 10% en ayant des hypothèses relativement prudentes.
D'accord. Donc, à la limite, si on restait dans les conditions actuelles, ce serait plutôt vers le haut de la fourchette. Mais comme vous dites, il y a quand même deux interrogations. Le nouveau Parlement. Et puis, cette fameuse taxe qui pourrait échoir sur le dos d'EDF, voire d'Engie, mais qui concernerait surtout EDF, qui pèserait pour 3 milliards. Elle rentre dans votre calcul déjà ou pas encore?
Cette taxe, elle a été discutée, présentée. Pour l'instant, on a encore assez peu d'éléments techniques sur comment elle fonctionnerait. C'est plutôt une taxe pour l'avenir. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore totalement en capacité de mesurer l'impact et donc on attend de voir exactement comment est-ce qu'elle serait configurée et puis elle n'est pas du tout décidée à ce stade. Sera vraiment gouvernement et Parlement qui vont en discuter.
Donc elle n'est pas prise en compte dans vos estimations?
En fait, nos estimations sont des fourchettes avec des hypothèses d'augmentation fiscale, avec des hypothèses d'évolution de prix. Donc, globalement, si on prend un set d'hypothèses, si vous voulez, comme font beaucoup d'entreprises, on arrive dans une zone à moins 10%. Après, hypothèse par hypothèse, ça devrait être à affiner.
Oui, d'accord. Cette baisse, comme vous dites, ça dépend. Si les prix continuent à baisser, les prix de l'énergie continuent à baisser, comme ça a été le cas depuis le début de l'année, vos prévisions sont plutôt quoi sur l'évolution des prix de l'énergie?
Donc, petit rappel sur les prix de l'électricité, ils étaient entre 40 et 50 euros du mégawattheure avant la crise. Ils ont atteint des niveaux stratosphériques, 1000, parfois même plus que 1000 euros du mégawattheure sur le marché spot. En prix annuel, on a eu une période où ils étaient extrêmement élevés, plusieurs centaines d'euros, 200, 300, 400 euros du mégawattheure, parfois plus même. Maintenant, ces prix se restabilisent pour simplifier, dans une fourchette entre 60 et 80 euros du mégawattheure, selon qu'on regarde le marché quotidien ou les marchés par trimestre, et selon les trimestres ou même les années. Donc, on considère qu'on va rester dans cette zone assez longtemps, entre 60 et 80 euros du mégawattheure. Donc, la CRE n'anticipe pas une très forte augmentation sur la base des fondamentaux de marché actuels, parce que le gaz s'est stabilisé, parce que la production d'EDF est beaucoup remontée. Il faut saluer l'effort industriel qui a été fait. EDF a remonté sa prévision de production nucléaire pour 2024. Elle a remonté significativement. Maintenant, ils sont entre 340 et 360 TWh. Donc, c'est bien mieux que ce qu'ils avaient dit en début d'année. Les énergies renouvelables produisent. Donc, la France exporte massivement. Du coup, on n'a pas de tension sur la production. Donc, pas de pression sur les prix pour l'instant. Après, voilà, il peut toujours se passer quelque chose. Les épisodes précédents nous mènent à une forme d'humilité sur les prévisions.
Évidemment, il y a tout l'aspect des risques géopolitiques, parce qu'il n'y a pas que ça a eu. Évidemment. Cette hausse, en fait, il y avait une hausse aussi, parce que le prix de l'électricité, il y a trois composantes, hein, notamment il y a le niveau des prix de l'électricité sur le marché, comme vous venez d'expliquer, il y a le réseau et la production. L'augmentation du tarif réseau qui est lié au coût d'acheminement devait être de 1%.
Alors celle-là, elle va avoir lieu.
Elle va avoir lieu, celle-là.
Oui, le gouvernement nous a demandé de reconsidérer notre décision, donc c'est ce qu'on a fait. On a considéré que la hausse, qui est vraiment une hausse mécanique, hein, tous les ans, il y a une actualisation du tarif d'utilisation des réseaux qui prend en compte l'inflation et les dépenses normales des gestionnaires de réseaux. C'est l'entretien, c'est aussi la lutte, enfin l'adaptation plutôt au changement climatique, et puis sont les nouveaux raccordements pour les renouvelables, pour les projets industriels. Donc, on a délibéré en juillet. Ça donne une augmentation classique annuelle. Cette augmentation aurait dû avoir lieu au 1er août. Elle aura finalement lieu au 1er novembre. Et elle est tout à fait classique, comme toutes les augmentations annuelles.
Oui, c'est ça. Mais donc, dans un premier temps, en fait, on a une hausse. Alors, du coût de l'électricité, parce que la baisse, c'est au 1er février.
Cette hausse au 1er novembre, qui s'applique à tous les consommateurs en offre de marché et aux entreprises, elle ne s'appliquera pas aux clients au tarif réglementé. Donc tous les clients au tarif réglementé n'auront aucune modification au 1er novembre et ça sera intégré dans la baisse qui arrive au 1er février. Ah oui, donc c'est le choix que nous avons fait.
D'accord. Donc en fait, elle sera applicable à ceux, aux 40% de Français qui ne sont pas sous le régime du tarif réglementé.
Tout à fait. C'est Et aux entreprises.
Donc pour elles ou pour eux, ça sera au 1er novembre.
Au 1er novembre.
Et puis pour le reste, ça sera intégré
dans le mouvement au 1er février. En gros, si vous voulez, ceux qui sont en offre de marché, pour simplifier, ils ont un prix de l'électricité qui colle plus à la réalité du marché. Donc pour la très grande majorité d'entre eux, ils ont déjà bénéficié de cette baisse du prix de l'électricité qu'on a vu toute l'année 2024. Pour ceux qui sont au tarif réglementé, le prix de l'électricité ne change qu'une fois par an. Donc cette baisse, ces clients vont la voir en février. Et du coup, l'impact réseau, ça sera intégré à ce mouvement de février.
Mais en fait, les gagnants, est-ce qu'on peut dire quand même que les gagnants sont ceux qui n'étaient pas au tarif réglementé, puisqu'il y a une baisse continue?
En tout cas, ceux qui ont fait le choix de ne pas être au tarif réglementé, ils ont contractualisé librement avec un fournisseur. Et il y a beaucoup de fournisseurs qui, depuis maintenant quelques mois, proposent des offres qui sont assez largement en dessous des tarifs réglementés. Ah oui. Ça, c'est exact.
Ouais. Est-ce qu'il y a moins de fournisseurs? Parce qu'on sait que pendant la crise, vous étiez même venu ici en studio nous en parler. Il y a eu des fournisseurs qui ont mis la clé sous la porte. Il y a eu combien de faillites de fournisseurs?
Alors, il y a très peu de faillites de fournisseurs, quasiment pas. Un ou deux fournisseurs qui fournissaient plutôt des clients entreprises. Après, on a eu des difficultés avec certains fournisseurs et donc on a mené des enquêtes qui ont parfois mené à des sanctions. Et maintenant, on a retravaillé sur des lignes directrices de bonnes pratiques pour les fournisseurs et on a demandé à tous les fournisseurs de s'engager d'ici au 30 septembre pour nous dire s'ils allaient respecter ces lignes directrices. On attend une loi, en fait, parce qu'on a besoin de quelque chose qui rende ça obligatoire. Donc, on aimerait beaucoup que ce soit repris dans un texte législatif. Et en attendant, on a commencé par le faire sur une base volontaire.
Oui, ligne directrice de transparence, en fait.
De bonne présentation des offres et de bonnes pratiques.
C'est ça, de bonnes pratiques. Est-ce que l'année prochaine, il y aura une... Est-ce que cette baisse de l'énergie qu'on a observée, parce qu'on reste quand même supérieur de 27%, le coût est supérieur de 27% par rapport à il y a deux ans, hein, quand même, donc ça reste quand même encore très élevé le niveau du prix de l'électricité. Alors, il y a deux ans, même s'il y a une baisse en perspective.
Il y a deux ans, on était encore en période de crise. Mais ce qui est vrai, c'est que même avant la crise, les prix ont été bas. Dans les années 2015 à 2018, les prix ont globalement été très bas et on n'a pas retrouvé ces prix-là. Après, plus on a de production, la production nucléaire, la production des énergies renouvelables, plus ça détend le marché. Et surtout, si on arrive à bien utiliser les heures qui sont vraiment pas chères, les heures solaires par exemple, ça doit permettre de faire baisser le prix moyen pour les clients.
Oui, de l'ordre de combien? Parce que là, vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est entre 60 et 70 euros.
Oui, entre 60, 70, parfois 80, ça dépend des maturités.
Et à votre avis, avec tout ce que vous venez de dire, on peut s'attendre, je ne sais pas, hein, plutôt à vers 50, retrouver les 50, je ne sais pas, d'ici une petite année, d'ici 6 mois?
D'abord, c'est très difficile à prévoir, donc je vais être extrêmement prudente. Ensuite, on a des forwards, c'est-à-dire qu'on a des prix pour les années 2026, 2027, 2028. Ces prix sont... pas très loin de 60 euros. C'est plus que des prévisions, parce que ce sont des prix de marché sur lesquels s'échange l'électricité pour l'année 2026 ou 2027 ou 2028. Là, on n'est pas très loin des 60 euros pour l'instant.
60. Donc là aussi, vous prenez une marge. Vous restez
prudent. Non, mais c'est la réalité du marché. Donc, c'est ce que le marché dit aujourd'hui.
Oui, d'accord. Donc, est-ce que... parce qu'en plus... je vous posais la question sur le prix de l'électricité, mais lorsqu'on regardait, là on vient de GRT Gaz vient de le dire, les prix du gaz ont baissé aussi de 2,9%, donc globalement, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, le coût de l'énergie est bien moins cher aujourd'hui.
Oui, on arrive maintenant dans le monde post-crise en réalité. Oui. C'est-à-dire on a des prix qui ne sont plus hérités de la crise ukrainienne, mais qui deviennent des prix qui deviennent les nouveaux fondamentaux de l'économie pour les années qui viennent.
Oui. Là, on est, à votre avis, Emmanuel Wargon, dans un peu les nouveaux standards. On est dans une période de post-crise 2022 et que là, on est dans les nouveaux standards qui vont à peu près réguler l'énergie au moins pendant les prochains mois.
Oui, vous avez raison. On est en train d'atteindre les nouveaux fondamentaux de marché.
Oui, d'accord. Oui, ça, c'est un point important. Est-ce qu'il y a un moment où il n'y aura pas un trop-plein d'électricité en France? Parfois, on peut même... On l'a vu, là, avec les énergies renouvelables, photovoltaïques, il y a un moment qui, eux, sont pas... Ils n'ont pas de régulation, on va dire. Ils mettent toute leur énergie produite dans le système. Et puis, même s'il y en a trop, c'est pas grave. Mais eux, ils ne savent pas moduler ce que doit faire, notamment EDF. J'essaie de faire un peu de pédagogie, parce que c'est un peu compliqué.
Ça, on y travaille, hein, sur ce point qui est un peu compliqué. Mais le fait que les énergies renouvelables, par exemple le solaire, ne soient pas incités à arrêter leur production
quand il y en a trop. À réguler, quoi.
C'est un sujet sur lequel, en étroite liaison avec le ministère et d'ailleurs les professionnels, on a l'intention de travailler parce qu'effectivement, il y a un peu de réglage à faire dans nos mécanismes d'aide. Mais pour répondre à la question plus globale, hein, où est-ce qu'on va en équilibre entre l'offre et la demande?
Est-ce qu'il n'y aura pas trop d'électricité, là?
En fait, je vous rappelle qu'on a quand même une vraie ambition de décarbonation.
Oui.
C'est l'accord de Paris, toutes les suites, c'est la nécessité de réduire vraiment fortement les émissions de gaz à effet de serre. Et cette trajectoire, elle prévoit moins de consommation d'énergie en général et plus d'électricité. C'est-à-dire qu'elle prévoit une bascule massive des usages des carburants, du gaz, de toutes les énergies fossiles vers l'électricité qui, en France, est très très largement décarbonée entre le nucléaire, l'hydroélectricité et les énergies renouvelables. Et donc, c'est cette bascule qu'il faut qu'on arrive à faire et à accompagner. Ça veut dire faire évoluer les usages et avoir de plus en plus de production face à de plus en plus de consommation. C'est vraiment tout l'enjeu, mais c'est pas l'enjeu de la Commission de régulation de l'énergie. C'est l'enjeu de la politique énergétique du pays. C'est l'enjeu du gouvernement, du Parlement, de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne réussit que collectivement.
Aujourd'hui, au niveau global, toute énergie confondue, on est à combien de besoins de production d'électricité? Vous parliez tout à l'heure que EDF avait augmenté sa capacité à 360 TWh, mais au total, on a besoin de combien l'économie française? Et nous?
Alors, je voudrais pas vous dire de bêtises sur les chiffres, mais en tout cas, aujourd'hui, on exporte massivement de l'électricité. Oui. On a été dans une période, l'année dernière et celle d'avant, où exceptionnellement on a importé, c'est fini, on réexporte. Donc la consommation annuelle d'électricité, c'est à peu près 450 TWh de mémoire.
Non, c'est pour savoir, dans 5 ans, on sera à combien? On aura besoin de 550?
À 2035-2040, les hypothèses sont entre 550 et 600.
C'est ça, oui.
Donc il y a une hypothèse de progression de consommation consommation d'électricité d'un peu plus d'une centaine de terawatt-heure là dans les années qui viennent. Et ça doit venir de la voiture électrique, des changements de mode de chauffage, voilà, globalement de ce qu'on appelle l'électrification des usages.
Oui. Lorsqu'on parlait du coût de l'énergie, tout à l'heure, donc baisse du coût de l'énergie, mais en même temps, ça dépend aussi de ce que facture Enedis et RTE, non, j'imagine.
Comme vous le disiez, bah oui, dans une facture de détail ou dans une facture d'entreprise, il y a trois composantes. Oui. Le prix de l'énergie elle-même, l'électron ou la molécule de gaz, d'ailleurs, ça fonctionne pareil. Le coût d'utilisation des réseaux, puisque les réseaux, c'est pas gratuit, forcément. Les lignes électriques, on a une très belle ligne derrière vous, un très beau pylône, c'est pas gratuit. Il faut les payer et les maintenir et les développer. Et la partie fiscale. Donc nous sommes responsables de la partie coût des réseaux et nous sommes en pleine discussion avec Enedis et RTE pour revoir leur trajectoire pour les 4 prochaines années à partir de 2025. Il y a beaucoup de besoins d'investissement et donc voir avec eux quelle est la bonne manière de faire.
On en discutait hier ou avant-hier avec l'avantage comparatif de l'économie américaine versus l'économie européenne. Et moi je posais la question en disant c'est l'IRA. Et c'était Thomas Philippon, donc économiste réputé, qui disait non, pas du tout, c'est le différentiel énergétique. Le coût de l'énergie aux États-Unis est bien plus bas que celui qui est en France et en Europe. Et c'est ce qui fait le dynamisme de l'économie américaine. Est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il faut vraiment réguler les coûts de l'énergie pour les entreprises? Est-ce qu'il faut des prix le plus bas possible? Je ne sais pas quelle est votre réponse. Et sinon, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de faire vraiment baisser les prix de l'énergie?
Ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, les prix de l'énergie sont fondés sur un prix du gaz qui est lui-même très bas. Ouais. Parce que gaz de schiste, énormément d'activités gazières, beaucoup de production et donc du gaz extrêmement disponible, pas cher. On n'est pas dans cette situation en Europe. Par ailleurs, les États-Unis sont encore en train de se reposer massivement sur le gaz et donc ne sont pas encore complètement partis vers la décarbonation de leur électricité. Donc pour répondre à votre question, oui, on a besoin de garder une énergie compétitive en France et en Europe. C'est toute la question de la commercialisation de l'électricité vers les électro-intensifs. C'est vrai que ces très grosses entreprises qui sont très exposées à la concurrence internationale, elles ont besoin d'avoir accès à de l'énergie à un prix qui leur permet d'être compétitif.
Et c'était tout la polémique qu'il y avait du reste entre vous avec le Bercy, avec le patron d'EDF sur quel est le coût de l'énergie nucléaire. Est-ce que c'était 60 euros? Luc Raymond disait 70 euros. D'autres disaient, mais non, c'est même encore beaucoup moins cher. Est-ce que là, vous révisez à la baisse encore le coût du nucléaire?
Donc nous, on a fait un calcul il y a un an qui est abouti à peu près à 60 euros du mégawatt-heure pour le coût du nucléaire. C'est un élément qui rentre dans l'équation économique d'EDF. EDF a pas mal de modalités de vente, soit des contrats long terme qui rassurent les industriels parce qu'ils signent sur une période de 2, 3, 4, 5 ans ou plus, soit carrément ce qu'on appelle des contrats de partage de risque dans lesquels EDF propose à certains industriels quelque chose qui n'est plus un contrat de fourniture mais qui est un contrat de partenariat. Et c'est sur cette base-là que l'accord doit se trouver entre l'offre et la demande.
Et c'est à combien? Il se fait à combien?
Ce ne sont pas des contrats de fourniture, donc ce ne sont pas des coûts qui sont regardés par nous.
C'est
vraiment un contrat entre les entreprises. Il y a pour l'instant un certain nombre d'entreprises.
Mais certains disaient c'est 50 euros, c'est 50.
Alors moi, je n'ai pas d'informations sur ces prix-là.
Mais est-ce que vous pensez que le coût du nucléaire, puisque vous l'avez calculé il y a quasiment un an, donc là vous allez peut-être le recalculer, aujourd'hui il est plus bas?
Pas forcément, d'autant plus qu'on l'a calculé plutôt dans un système dans lequel EDF était couvert sur 100% de sa production. Et là, finalement, on est plutôt dans un système de marché. Donc, pas forcément, non.
Oui, d'accord. Donc, le coût de l'électricité, de l'énergie nucléaire, ne va pas baisser dans les prochains mois, voire dans les prochaines années.
En fait, le coût de l'énergie, de l'électricité nucléaire, il rentre dans les prix de marché. Et je vous ai dit, les prix de marché, ils oscillent entre 60 et 80
et à
3-4 ans, ils sont plutôt, enfin en tout cas pour l'instant, à 3-4 ans, ils ne sont pas très loin de 60.
Oui, c'est ça. Donc il faudra attendre encore un tout petit peu. Merci beaucoup, Emmanuel Vargon. On a compris. Donc là, une baisse, mais pas pour tout de suite. Ça sera pour le 1er février 2025. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La présidente de la CRE, Commission de régulation de l'énergie, nous a apporté cette bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français, du moins pour les 60% de Français.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, les experts, première partie jusqu'à 19h. De quoi est-ce qu'on parle? Emmanuel Wargon, donc présidente de l'ACRE, qui était l'invité d'Edwige Chevrillon il y a quelques instants. Les adieux de Bruno Le Maire, un discours devant plus de 1000 personnes ce midi à Bercy. Et puis la Banque Centrale Européenne qui a donc une nouvelle fois baissé son taux d'intérêt. Cette question qu'on va reposer, est-ce que ça y est, on considère qu'on a gagné notre combat contre l'inflation? Edwige Chevrillon est restée avec nous, bien sûr. Rebonsoir Edwige.
Bonsoir.
Et Bruno Coquet qui est avec nous. Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Bon, elle est venue avec une bonne nouvelle, Emmanuel Wargon.
Oui, elle est venue avec une bonne nouvelle. En même temps, elle était attendue, hein, cette bonne nouvelle. Et puis que ça reste quand même encore... très élevé par rapport à avant, hein, par rapport à la crise géopolitique et à la crise du Covid. Donc, de ce point de vue-là, il y a encore de la marge de manœuvre. J'ai essayé de la pousser un peu en disant, mais vous dites c'est entre 60 et 70, parce que tout est déjà fixé à l'avance, hein, évidemment. Puisque c'est là que...
70 euros le mégawatt-heure, voilà, je leur donne les éléments techniques.
Alors,
avant crise, on était à 45 ans, donc on n'est pas encore revenu à ce niveau. Enfin, on est quand même très très loin des pics qu'on a connus pendant la crise.
Ah non, mais c'est bon, c'est sûr. Hein, c'est sûr que là, elle l'a dit, on était arrivé à des 100, 110, 130, et même encore plus. Là, on est à, j'ai envie de dire, à mi-parcours. Maintenant, il faut qu'on redescende. J'ai essayé de lui faire dire quand. Ça ne part pas tout de suite, visiblement, parce que c'est calé sur 2026, 2027, je crois même 2028, mais là, je suis moins sûr.
En gardant bien, évidemment, en tête le coût exorbitant que sera celui de la rénovation, et de la rénovation et de l'amélioration du réseau dans les prochaines années. Mais enfin, c'est un sujet compté un petit peu, ça, quand même.
Oui, du coup, d'où l'augmentation.
Oui, alors, moi, c'est comme une augmentation à la base, c'est ça que vous dites.
Il y a une augmentation qui est prévue de 1% là, sur les réseaux. Vous savez, il y a trois composantes dans le prix de l'électricité. 1%, et pourtant il y a des investissements énormes à faire, parce qu'il faut encore raccorder toutes les nouvelles éoliennes, photovoltaïques, voire peut-être un jour les nouveaux EPR. Bref, il y a énormément d'investissements à faire. Je ne sais pas si, à mon avis, les 1% seront suffisants.
En tout cas, ça va être balayé, là, cette hausse de 1% par la baisse des prix de l'énergie, mais effectivement, il y a un vrai débat sur l'après, Bruno, à ce niveau-là, quand même, enfin, à plus long terme.
C'est... Pour moi, la creux, ça compte les points, quoi. C'est-à-dire que si demain, il y a un choc sur le marché du gaz en Europe, on nous dira autre chose. Au fond, c'est des éléments de langage qui habillent ce que le gouvernement lui a demandé de faire.
Elle fixe quand même, elle décide quand même en fonction du prix.
D'accord. Elle fixe rien du tout. Si demain le prix du gaz double, elle n'aura rien fixé du tout.
Ah bah sur le
gaz, point, c'est qu'on ajuste vaguement entre le prix du réseau, le prix de l'investissement, le prix d'EDF, le prix du tarif réglementé. Mais fondamentalement, c'est un travail de bureau de ministère. Je comprends pas à quoi sert la CRE à part à commenter
Je n'ai pas fait la défense de la CRE. Juste souvenez-vous de cette polémique. Hein,
c'était recommandations,
la polémique très forte avec. Avec Luc Rémont d'EDF, c'était sur le coût du nucléaire. Elle avait sorti le coût du nucléaire, c'est 60 euros du mégawatt-heure. Luc Rémont a dit non, c'est 70. Parce que avec tous les investissements qu'il faut faire, à 60, je ne peux plus investir. Je ne peux pas investir.
Oui.
Et donc, il y avait eu toute une bataille. Et puis finalement, ça a été fixé à 60.
Voilà, bon.
Elle ne compte pas forcément les points. Compter les points.
S'il n'y avait pas la creux, il y aurait un bureau du ministère qui s'en occuperait, qui doit s'en occuper d'ailleurs.
Moins indépendant.
Et on aurait le même résultat.
Peut-être un peu moins indépendant.
Peut-être moins indépendant.
Ouais.
Indépendant.
Juste un mot, puisqu'on parlait d'EDF et vous l'avez posé la question, elle est restée très sur la réserve parce que ce n'est pas son rôle, effectivement, sur cette taxe de 3 milliards d'euros qui menace potentiellement EDF.
Comme elle dit, alors là, pour le coup, elle a raison, c'est que, on n'en connaît pas vraiment encore les modalités, et deux, il n'y a pas de Parlement. Donc, si vous voulez, ça fait quand même de bonnes raisons pour ne pas savoir exactement à quelle sauce va être mangé EDF.
Projet que Bruno Le Maire, dont on va parler dans un instant, va laisser sur son bureau. Oui, mais comment on peut vouloir taxer EDF à autour de 3 milliards d'euros quand on sait que ce groupe sera le fer de lance de la relance du nucléaire, qu'il faut accélérer sur la rénovation du parc, sur la construction de nouveaux réacteurs, sur les renouvelables, et qu'il y a effectivement, quasiment 55 milliards de dettes. Enfin, c'est quand même un truc...
Il faut faire des économies, si vous voulez. Vous voyez, on est à Auteuil, hein, on est dans les courses d'obstacles. Donc le premier obstacle, c'est de boucler un budget 2025. Ouais. Puis après, on verra.
Non, mais le message est paradoxal. Je veux dire, au moment où on veut relancer le nucléaire...
On nous a dit qu'il y avait un plan. Donc un plan, ça sert à ça. Normalement, ça sert à contrôler la volatilité des décisions à court terme. Et donc, du coup, je pense qu'il faut s'en tenir au plan. Et en particulier, faut-il rebaisser les prix de l'électricité à court terme, alors que tous les autres prix se sont ajustés quand même. On ne peut pas revenir au niveau de prix d'avant la crise. C'est une vraie question. On a eu le bouclier fiscal qui a alourdi la dette. Moi, je ne suis pas sûr, même si ça me fait plaisir aussi, comme tout le monde, la note d'électricité qui baisse. Mais quand même, d'un point de vue macro, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne
décision. Juste un point, parce que je ne l'ai pas évoqué avec elle, parce qu'on était beaucoup sur les prix, sur les heures creuses pleines. Emmanuel Wargon a des velléités de changer, de préciser, de faire que ça soit plus adapté en fonction du soleil, en tous les cas pour tout ce qui concerne l'énergie durable, renouvelable, d'un type forcément photovoltaïque.
Oui, parce qu'on fait sauter le réseau, de ce que j'ai compris, on injecte trop de solaire et trop d'éolien à certains moments dans le réseau, et donc du coup on est obligé de les déconnecter, ce que font les autres pays, et c'était pas prévu pour nous.
Voilà pour Emmanuel Wargon. Donc Bruno Le Maire, discours à Bercy ce midi devant... Il y avait beaucoup de monde apparemment, Edwige, vous y étiez.
Hein, oui, j'y étais. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des fonctionnaires. Non, il n'y a pas que des fonctionnaires, pas du tout. Il y avait...
Des journalistes ? Il y avait tout le monde ?
Il y avait quelques journalistes. Il y avait Alexis Keller, quand même, secrétaire général de l'Élysée. C'est assez drôle, parce qu'on pensait que les relations n'étaient pas forcément excellentes. Oui. Et puis, il y avait pas mal de ministres et d'anciens ministres.
Bruno Le Maire, qui remercie tout le monde et qui fait passer quelques messages bien sentis à l'occasion. Écoutez.
La France ne doit pas revenir en arrière. Elle ne doit pas revenir en arrière sur le rétablissement de ses comptes publics. Elle doit continuer de se fixer pour objectif de revenir sous les 3% de déficit public en 2027. La France ne doit pas revenir en arrière non plus sur les impôts. Malgré nos 55 milliards d'euros de baisse d'impôts depuis 2017 sur les ménages comme sur les entreprises, la France garde un niveau de pression fiscale parmi les plus élevés de tous les pays développés.
Et là, il y a toutes celles et ceux qui se lèvent en disant « Mais que n'avez-vous agi plus vite et plus fort ?» Évidemment. Bruno Le Maire, c'est la question qu'on pose ce soir. A-t-il démérité en 7 ans à Bercy ? Bruno Coquet, pour vous.
Il a eu 7 ans déjà. Donc, record, il dit lui-même, c'est un record. Et puis, il y a besoin du temps long. Donc, du coup, là, il a eu le temps long. Au bout du compte, on voit bien que c'est un champ de ruines quand même, son affaire.
Pourquoi ? Où est la ruine ?
Non, il y a un discours performatif quand même, c'est-à-dire où il décrit une réalité qu'il n'existe pas. C'est-à-dire à la fois qu'on va atteindre 3% du déficit en 2027.
Non, il dit que c'est possible.
Oui, mais en fait, ce qu'il dira dans 5 ans, c'est quand je suis parti, on était en ligne avec les 3%. C'est ça qu'il dira.
Ah non, ça c'est faux, ça serait faux. On n'était pas en ligne.
Comme c'est faux de dire que la France.
Non, je ne suis pas d'accord.
Comme c'est faux de dire que la France a des bonnes performances de croissance, des bonnes performances d'emploi et est plus attractive que les autres pays. C'est les 3 points qui avait été mis en avant dans l'article du Point d'Emmanuel Macron à la fin août de l'année dernière.
Oui.
Ces 3 points. Quel que soit l'indicateur que l'on regarde, la France est au mieux dans la deuxième moitié du classement européen. Il cite deux pays, et il a raison, l'Allemagne et l'Italie qui ont moins de croissance qu'on eut. Mais c'est les deux seuls, sur 5 ans. Et c'est les deux seuls.
C'est toujours comparé à l'Allemagne, donc si vous voulez, c'est assez logique, continue
très bien,
à
l'Allemagne aille mal.
La Belgique, peut-être que la Belgique fait une croissance supérieure.
D'accord, que l'Allemagne aille mal, il n'y a pas de doute, mais elle n'a pas augmenté sa dette comme nous, ce qui nous met dans un mur quand même. Le mur que l'Allemagne n'a pas.
Il fallait regarder l'état des infrastructures en Allemagne.
Oui, mais l'état des infrastructures en France, je ne suis pas sûr non plus des choses.
Quand même, tout n'est pas parfait.
Quand on fait le bilan des ponts, des trous dans les routes, etc., comme ça a été fait cette année, je ne suis pas sûr que ça aille bien. Enfin, moi je pense... Non, mais la France, il faut regarder, il faut se comparer aux autres. Quand Bruno Le Maire nous a dit qu'il avait sauvé Renault, Air France, etc., les restaurateurs, c'est vrai tout ça. Ouais. Mais dans les autres pays aussi. Et donc, du coup, et sans...
L'attractivité, quand même, c'est vrai. Ça
alors, il y a des bonnes choses sur l'attractivité, sur les nouvelles technologies, sur
la... La part de la valeur...
Montant les investissements en étrangers.
Non, mais après qu'il y ait des intentions qui soient bonnes, j'en doute pas. La réindustrialisation, l'attractivité de la France, c'est des bonnes intentions.
C'est inversé, vous êtes d'accord, Bruno, quand même. À l'OFCE, vous êtes quand même d'accord avec ça, non ?
Comment ?
Ça a été inversé. On regarde le solde net de création d'usines ou de destruction d'usines.
Moi, je regarde le solde net.
Il est positif.
Le solde, il est à 50 usines, je crois.
Le solde net des investissements étrangers.
Oui. Hein,
ce qui est, donc, ceux qui rentrent et ceux qui sortent.
Oui.
Et en fait, il est plat depuis 10 ans, en gros. Tout le monde peut aller voir le graphique sur le site de l'INSEE qui s'arrête qu'en 2022, mais bon. Et donc, du coup, vous verrez que, certes, ça a augmenté du point de vue des investissements étrangers en France. Je connais tous les indicateurs d'attractivité qui sont mis ici ou là.
Vous êtes d'accord qu'en France, c'est devenu le premier pays attractif en Europe.
Mais il y a plus d'exportation de capitaux. Il y a plus d'investissements français à l'étranger aussi. Donc, au bout du compte... Au bout du compte, c'est stable de ce point de vue-là. Je ne dis pas que c'est mauvais,
alors,
c'est stable.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit? Que Emmanuel Macron, que Bruno Le Maire a fait passer le message qu'il a été entravé peut-être dans sa volonté de davantage maîtriser la déficit public et la dette au fil des ans? Est-ce que c'est
Il a dit qu'au début, il y avait trois phases. Il a dit tout à l'heure qu'il y avait trois phases.
Oui.
Il y avait la première phase où ils sont arrivés. Et là, effectivement, on était en dessous des 3%. donc, on avait mis fin à la procédure déficit excessif qui était contre la France. Donc, première période. Après, deuxième période, ça a été la crise de la Covid et puis après, la guerre ukrainienne. Et puis, troisième période, là où il y a des dérapages un peu dans tous les sens. On se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes. Voilà.
Les dérapages, pour moi, ils sont à partir de 2021. C'est là où on se différencie des autres. Là où les autres commencent à resserrer les boulons après la crise Covid, même dans le cadre de la crise ukrainienne, les autres pays européens ne traitent pas cette période comme nous.
Ah ben non.
Nous, le quoi qu'il en coûte, qui a continué.
Exactement.
C'est ça le problème, c'est pas la période récente le
Donc
problème.
Donc vous pensez qu'il n'aurait pas fallu faire de quoi qu'il en coûte?
Je pense
qu'on aurait beaucoup de beaucoup d'entreprises.
Non, mais resserrer les vis plus vite après le quoi qu'il en coûte, c'est ça.
Oui, enfin, le point c'est que si elles n'ont pas disparu ailleurs, ces mêmes entreprises, dans ces mêmes secteurs, et ce qui est le cas, c'est que d'autres pays ont trouvé les moyens de contenir la dépense publique sans plus de morts qu'en France, sans plus de faillites qu'en France.
Est-ce que l'erreur,
il y avait moins de taux de faillite, elle était moins élevé en Allemagne?
Je ne sais pas, les restaurants sont toujours ouverts.
Mais le taux de faillite, là, moi, je ne connais pas.
L'erreur, c'est le quoi qu'il en coûte ou ce qui s'est passé dans la foulée avec le début de la guerre en Ukraine, c'est les quelques 100 milliards d'euros qui ont été mis sur la table pour préserver les Français de la hausse des prix de l'énergie
énergétique.
C'est peut-être là, effectivement, que les choses ont véritablement dérapé.
Moi, j'ai tendance à penser que c'est entre les deux. C'est entre le printemps 2021,
quand
on sait que c'est fini, et le printemps 2022, où se déclenche la guerre en Ukraine. Dans cet intervalle-là, on n'a pas été performant sur les dépenses publiques. On n'a pas cherché à resserrer les boulons et à économiser.
Oui.
Et le reste a suivi, en quelque sorte.
Là, c'est sûr. Mais en même temps, quand vous voyez, regardez les chefs d'entreprise qu'on a reçus ici, qui disaient tous les PGE, il faut absolument les prêts garantis par l'État qui ont été mis en place au moment de la Covid. Il y en a même encore qui disent qu'il faut encore les étaler encore plus, parce que sinon, les entreprises n'arriveront pas à les rembourser. Donc vous dites qu'on aurait dû, serrer les boulons plus tôt et leur dire vous remboursez. Ou sinon au tapis.
Si les entreprises viennent et disent ça, c'est que ça ne va pas bien. Or, pendant 3 ans, on nous a expliqué que ça allait bien tout en dépensant beaucoup. Ce qui était une vraie contradiction. Moi, je veux bien entendre l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et donc, je pense que ça s'est joué dans cette période-là. Après, on s'est fait prendre, parce qu'on n'avait pas resserré les boulons par l'inflation de la crise ukrainienne. Et donc, du coup, on est avec les boucliers énergétiques.
On a beaucoup lâché quand même. Au moment des Gilets jaunes, on a beaucoup lâché, Emmanuel Macron a beaucoup lâché, 2 milliards par là, 3 milliards par là, 5 milliards par là.
Ce qui est terrible, c'est que Bruno Le Maire, on retiendra, vous parliez des mesures sur l'attractivité en matière de réindustrialisation, en matière d'innovation, il y a eu des choses, il y a eu le plan de relance France 2030, le plan d'investissement de Jean Pisani-Ferry, et à l'arrivée finalement tout ça... Le bilan de Bruno Le Maire va être éclipsé effectivement par cette dérive.
C'est ça qu'il ne veut pas, évidemment.
C'est ça qu'il ne veut pas.
Discours a été tourné sur
le. Je ne sais pas, on entend dire depuis des années que les questions de déficit et de dette n'intéressaient pas Emmanuel Macron, alors que lui a bataillé. Dans son job en disant il faut maîtriser nos déficits, notre dette, évidemment. Il était dans son job. Le message a été passé aux investisseurs internationaux. Mais il n'était
que ministre. Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, Guillaume. Sur l'immobilier. L'immobilier, c'est sûr que ça n'intéressait absolument pas le président.
Non.
On a bien vu, il y a eu des successions de ministres de l'immobilier. Ils ont essayé de faire des réformes en tout genre qui n'ont jamais marché. Et donc, on voit bien l'effondrement de l'immobilier, surtout dans le neuf. Avec des conséquences, le trou de 20 milliards de recettes en moins, en 2023. Et de ça, de ce point de vue-là, il y a une responsabilité évidente. Ça veut dire qu'il y a eu d'abord un manque d'anticipation criard du côté de Bercy, ça c'est un peu étonnant.
Oui, oui.
Mais que du coup, ils n'avaient pas mesuré considérer l'impact que ça aurait en droit de mutation. Je veux dire, oui. c'est en fait le gros, l'essentiel du trou, j'ai presque envie de dire, qui vient de là, et puis évidemment des intérêts d'emprunt sur la dette française qui était quand même déjà gigantesque.
Évidemment.
Comme le problème d'anticipation sur les recettes fiscales l'année dernière, sur les recettes fiscales à nouveau cette année, le problème sur la surtaxation des énergéticiens, enfin des surprofits, oui. Je ne sais plus comment on a appelé ça, l'année dernière, on a un écart de 12 milliards quand même. Donc tout ça, il y a quand même des problèmes qui sont techniques avant d'être politiques. Voilà, et moi je pense que dans la un peu plus macroéconomiquement, je pense qu'on a quand même eu un sujet de d'équilibre des finances publiques qui aurait dû se poser beaucoup plus tôt et où on se dit comme d'habitude à Bruxelles, ah bah oui, de toute façon c'est la France, on va avoir une exception, on l'obtient et on fait pas l'effort.
Là, on va avoir une exception, on va encore avoir un peu plus de temps pour présenter notre trajectoire de déficit.
Mais ça nous dessert au bout d'un moment.
Ça devait être le 20 septembre, apparemment on négocie jusqu'au 15 octobre ou quelque chose comme ça. Donc
ouais, enfin c'est pas en 15 jours qu'on va résoudre le problème.
Mais certainement pas. Deux minutes pour vous demander si vous pensez qu'enfin la BCE a gagné son combat contre l'inflation. Christine Lagarde qui a donc baissé les taux cet après-midi. On est à 3,5% au niveau de la zone euro. On est toujours à 2,2% d'inflation sur la zone euro sur un an. Est-ce qu'on a gagné ce combat contre l'inflation ou pas encore? Christine Lagarde semble dire que non, a priori. C'est pas gagné, hein, très clairement.
Contre l'inflation, on sent que c'est bien ralenti. Le problème est de savoir si on a gagné le combat contre la croissance. C'est ça le sujet.
Est-ce qu'on n'a pas tué la croissance, c'est plutôt ce sujet.
Parce que là,
on ne baisse pas encore les taux suffisamment vite, c'est ça que vous dites finalement.
C'est un tour de vis très sévère, non?
Le T2 a été revu en Europe à 0,2% au lieu de 0,3%. Ouais. L'INSEE prévoit pour le quatrième trimestre de 2024
la BCE, sur 0,8,
un chiffre négatif. On ne peut pas dire que ça aille très très bien.
Non, est-ce qu'encore une fois, la Banque Centrale Européenne n'a quand même pas... avec cette peur de l'inflation, c'est vrai qu'elle est très dangereuse, hein, surtout si on la laisse galoper, mais m'a donné un tour de vis beaucoup trop serré.
Le problème, c'est que maintenant, oui, c'est un paquebot.
La croissance,
c'est rien. Il y a du délai entre le moment où on prend la décision.
C'est un paquebot, et a priori, la prochaine baisse de taux n'est pas avant décembre prochain. On est début septembre, vous voyez. Donc
et que la conjoncture se dégrade.
Elle a juste révisé ses perspectives de croissance à la baisse. Ce qui peut être un signal. Et puis, si la réserve fédérale bouge, il y a un moment donné, ça va bouger. Et puis, qu'est-ce que fait la France? Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a un défi sur la France ou pas? Ça, cette question du spread de taux et donc de l'inquiétude des autres pays européens sur l'euro peut exister.
Allez, voilà pour la Banque Centrale Européenne, 18h52. Vu sur le web, comme tous les soirs, un article de bfmbusiness.com que nous voulons mettre en avant dans cette émission. C'est Anne Cattel-Mousset qui est avec nous. Bonsoir Anne Cattel.
Bonsoir Anne
Cattel. En chef du site bfmbusiness.com. Qui est la femme la plus riche du monde? Alors vous allez me dire, mais oui, on en avait beaucoup parlé, c'est Françoise Bettencourt, meilleure héritière du fondateur de L'Oréal. Oui, sauf qu'elle vient de se faire détrôner, Anne Cattel.
Oui, tout à fait, ce n'est plus une Française en tête du classement des femmes les plus fortunées au monde. Elle vient de se faire shipper la couronne par une Américaine, Alice Walton, 74 ans. Alors on a Forbes qui tient les comptes, voilà. Et donc selon Forbes, Alice Walton, elle a une fortune de 88 milliards de dollars quand Françoise Bettencourt Courmeyeur n'a que 84 milliards de dollars. Voilà. Alors, Alice Walton, qui est-elle? Je ne sais pas si vous la connaissez, je pense qu'ici. Voilà, vous voyez qui c'est. C'est l'héritière et l'une des propriétaires du géant américain de la distribution Walmart, qui a été créé par son père, Sam Walton.
Et comment est-ce que s'est fait l'inversion, alors, Anne Cattel?
Alors, ce n'est pas une surprise, mais leur fortune, elle est directement liée au cours du bourse des deux sociétés, d'un côté L'Oréal, de l'autre Walmart. La première, Walmart, elle surperforme en bourse depuis le début de l'année. On est à plus 47% sur l'action. Et de l'autre, on a L'Oréal qui, après deux années exceptionnelles, c'est un petit peu plus, ça cale un peu, voilà. Donc forcément, on est à moins 13 depuis le début de l'année. Donc du coup, Françoise Bettencourt-Meyers a perdu des places et Alice Walton en a gagné. Pourquoi? Parce que Walmart aux États-Unis, c'est une chaîne qui a une très très bonne image prix. Et on est dans un contexte d'inflation, donc de plus en plus de consommateurs, les résultats sont très bons. Et L'Oréal, c'est un peu moins flamboyant. On a la Chine, par exemple, comme tous les produits, toutes les marques de luxe et de cosmétiques qui souffrent un peu, même si les résultats sont petit peu moins bon.
Et alors, Alice Walton, donc femme la plus riche du monde. Si on mélange hommes et femmes, finalement, elle se situe où dans le classement des milliardaires?
Elle est loin quand même, Alors là, si on regarde le classement Bloomberg, un autre média qui tient les comptes vraiment au niveau mondial. Je rappelle, donc Alice Walton, on est autour de 90 milliards. On va arrondir. Elle est derrière ses frères déjà, avec qui elle partage l'entreprise. Elle a un peu moins de parts. Donc voilà, elle est derrière Jim et Rob. Elle est 17e fortune au monde. Le trio de tête actuel, on le connaît, c'est Elon Musk. On est à 250 milliards. On a Jeff Bezos d'Amazon, 200 milliards. Et enfin, enfin Bernard Arnault, oui. Le français quand même, sur le podium LVMH avec 180 milliards d'euros.
Qui a un petit peu souffert Bernard Arnault, évidemment, bah oui, de tout ce qui s'est joué en France, du contexte politique et la valorisation, même la valorisation d'LVMH a trinqué.
On a perdu deux titres parce que c'était l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde, et du coup, là maintenant, c'est que la médaille de bronze.
C'est la médaille de bronze en l'occurrence.
C'est le même classement qu'aux Jeux Olympiques.
Absolument. Oui. Voilà donc Alice Walton, 74 ans, fille du fondateur des magasins Walmart. Bah oui, la recherche du petit prix dans ce contexte inflationniste.
Mais ce serait intéressant de savoir pourquoi ses frères sont mieux classés.
Ils ont un peu plus de parts dans l'entreprise.
Ah, et voilà, oui, discrimination.
Et voilà, ça, on revient toujours au même sujet. Voilà pour cet article qu'on voulait mettre en avant ce soir. Merci beaucoup Anne-Catherine Mousse avec nous, rédactrice en chef du site bfmbusiness.com. Bruno Coquet va revenir avec nous dans un instant jusqu'à 20h avec grand plaisir. Edwige, on se retrouve lundi.
Lundi, peut-être.
Non, il n'y aura pas de gouvernement, si c'est ça que vous voulez savoir.
Ah ben, on ne sait plus. C'est la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, ça commence lundi, non?
Oui.
Non, je pense que ça sera effectivement plutôt en milieu de semaine prochaine. Enfin, rien n'est moins sûr.
Nous verrons ça lundi, à lundi 18h10, 18h55. Nous, on marque une petite pause. Le journal dans un instant. On va revenir sur les adieux de Bruno Le Maire. On va revenir sur tout ce que nous a dit Emmanuel Wargon. Et puis, on va parler de la BCE, évidemment. Avec cette question qu'on va reposer jusqu'à 20h. Est-ce que ça y est, on considère qu'on a, allez, quasiment gagné le combat contre l'inflation dans la zone euro? On vient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h, évidemment, sur BFM. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.